La Relève, un lundi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Après avoir raté l'émission de Noël, le Covid ayant fait un comeback inattendu, la relève est de retour avec des émissions originales, pas des redifs. Bonne année à vous. On va passer encore une demi-heure avec un jeune talent. Aujourd'hui, on va parler d'illusions perdues et de notes bleues ou de l'inverse. Mon invité est notamment romancier. Bonjour Martin Dumont.
Bonjour.
Merci de commencer l'année avec nous. Bonne année à vous.
Bonne année, merci de me recevoir.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 ?
Et ben, la plus longue vie possible en librairie pour mon livre.
Donc votre livre c'est Tempo. Tempo, on dit Tempo. Hein.
Oui,
Tempo. C'est le titre de votre troisième roman, il vient de paraître chez Les Avrils, il y en avait eu deux avant. Tant qu'il reste des îles, pardon, le premier qui a un titre très mystérieux dont on parlait juste avant, qui est Le chien de Schrödinger. Alors je ne sais pas si vous allez au cinéma et si vous avez vu Illusion perdue de Xavier Jannoli avec Benjamin Voisin, mais le film s'est terminé par cette phrase de Balzac à laquelle j'ai beaucoup pensé tout le temps où je vous ai lu. Donc Balzac aurait écrit « Je pense à ceux qui doivent en eux trouver quelque chose après le désenchantement ».
Ah oui, on est exactement sur le même thème, ouais. Sur la recherche de ce qu'il y a après le rêve, après le fantasme de jeunesse.
Vous avez peur du désenchantement, vous ?
Oui, un petit peu comme tout le monde, mais l'avantage quand on avance un petit peu dans la vie, c'est qu'on le vit, et puis j'ai l'impression plusieurs fois, sur plusieurs thématiques. Donc je l'ai déjà vécu et je me suis rendu compte qu'on peut y faire face et que ça se passe bien.
Et est-ce que vous pensez à ceux qui n'ont rien pu trouver, qui sont restés peut-être au bord de la route ? D'une façon ou d'une autre, hein, pas forcément de façon tragique, mais qui n'ont jamais réussi à se remettre d'échecs, par exemple.
Oui, j'y pense beaucoup. Bah, j'écris aussi un petit peu pour ça. Alors, j'ai pas la prétention de donner des réponses, mais les livres ils m'ont beaucoup servi dans ma vie, moi, à avancer, à trouver des petites clés. Donc, si ce livre, si cette histoire, elle peut servir à quelqu'un, c'est la réussite ultime pour.
Non, mais sans être indiscret, ce que je voulais savoir, c'est si vous arrivez à penser à des personnes concrètes que vous avez connues et qui sont restés, qui ont connu justement les enchantements et qui ne l'ont pas surmonté. Encore une fois, le nom de la personne nous intéresse peu ici. Mais...
Non, pas surmonté du tout.
Qui l'ont vécu difficilement.
Je ne pense pas, mais j'ai vu. Mais même à titre personnel, dans ce livre, il y a un petit peu de moi et de ma relation à la musique. Et ça n'a pas toujours été facile. Aujourd'hui, je peux écrire cette histoire et en parler un peu mieux, mais... Donc, je dirais moi ou les membres de mon groupe de l'époque.
Alors justement, Tempo raconte l'histoire de Félix. C'est un trentenaire, il est jeune père et surtout musicien. Et il essaie de renouer avec le succès qu'il a connu.
Ouais, exactement. Il y a une double temporalité dans le roman. C'est la première fois que je faisais ça. Ça m'intéressait de travailler ça. À la fois l'histoire, le présent de Félix. Je dirais pas triste, mais un peu plus mélancolique, un peu plus... un blues, j'aime bien dire un blues, que le blues m'a beaucoup inspiré pour ce livre, et son histoire, sa jeunesse, entre guillemets, son groupe de rock plus jeune, où là on est plus dans un rythme voilà, joyeux de construction et un peu plus rock, justement, que blues.
Vous avez voulu jouer sur ces deux tempos ?
Exactement, ouais, j'aimais bien l'idée. Je l'avais lu déjà beaucoup dans beaucoup de livres, très bien fait, j'aimais beaucoup. Et là, j'aimais bien l'idée que la partie jeunesse et la partie plus joyeuse soutiennent un petit peu le rythme du roman. Et ça me permettait de faire des scènes un peu plus lentes, on en parlait, un peu plus mélancoliques sur les passages au présent.
Et puis, je tiens à dire qu'il y a des jeux de correspondance entre le passé et le présent qui sont très finement travaillés, moi j'ai trouvé. Je ne sais pas si vous avez mis beaucoup de temps à faire certains enchaînements, mais il y a souvent des correspondances qui sont dans un son, dans un moment, dans une rencontre. Et vous jouez très bien avec ça. Mais on va revenir à votre roman. Donc, c'est un roman sur la musique. Vous-même, vous avez été un musicien, membre du groupe Smatch. Donc, un rapide calcul que j'ai fait après avec les éléments qu'il y a dans la biographie que fournit votre éditeur m'indique que ce que vous racontez n'est pas vraiment ce qui vous est arrivé, puisque dans les années 80, vous étiez beaucoup trop jeune. Or, le groupe du roman, pour essayer d'être clair, travaille dans les années 80. Alors, je me suis demandé pourquoi vous étiez déplacé dans le temps. C'était pour ne pas être trop autobiographique, pour mettre de la distance, ou parce que c'était musicalement un moment dans l'histoire de la musique qui vous intéresse ?
C'est une excellente question et une question que je me suis beaucoup posée. Alors, ça m'arrive assez souvent d'essayer de mettre de la distance un petit peu avec mon personnage, mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est vraiment lié à l'époque musicale.
Donc, la fin des années 80.
Oui, qui m'intéressait beaucoup avec bah, l'arrivée du rap à un moment, enfin un changement musical vraiment de scène musicale. Et il y a quelque chose de très concret, c'est que j'aimais... Aujourd'hui, la musique, ça passe beaucoup par... Ça passe beaucoup par Internet, par voilà, le streaming, par des choses comme ça. Et alors, quand j'étais au lycée, moi, c'était le début de ça, de MySpace. Et là, j'avais vraiment envie de ce personnage.
C'est vrai que les gens qui nous écoutent savent à peine ce que c'est MySpace.
Oui,
hein.
Je sais, c'est terrible. Ça nous rend très vite vieux. Mais j'aimais beaucoup voilà, ce personnage qui traque les maisons de disques et qui est obligé de se produire. C'est la seule façon qu'il a de faire écouter sa musique. Ça me plaisait beaucoup.
Et puis, il y a la mythologie de l'album, qui aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un qui fait de la musique rêve d'album.
Non, il doit rêver de vues sur Spotify, d'écoute sur Spotify plutôt, mais effectivement, du même, il y a un peu de vinyle, mais il y a l'album, il y a la maison de disques, le label, quoi, c'était vraiment un mot important.
Manager, le.
Ouais, exactement. J'aimais bien cette idée, ça me permettait de faire d'autres choses. Je voulais pas qu'on se dise, mais le héros devrait poster tout simplement sa chanson sur Internet, quoi, donc à cette époque.
Ah oui, c'est ça, vous vouliez pas du tout qu'il puisse avoir cette facilité-là dans le récit,
ouais,
que vraiment il soit encore dans un temps d'avant,
ouais,
où
là,
il fallait qu'il passe par un intermédiaire pour y arriver.
Ouais, dans ce livre, il y a beaucoup l'influence d'un film des frères Cohen dont je vais perdre le nom, Inside
Levin Davis.
Et c'est l'époque de Dylan, et il y a cette, je trouve ça très
là,
beau.
C'est plutôt les années 60. C'est...
Ouais, mais cette esthétique du guitariste là, qui se traîne de bar en bar pour aller jouer ses chansons, j'aimais bien, donc c'est ce qui explique un peu l'époque.
J'ai peur de faire une erreur, mais je crois que l'acteur s'appelle Oscar Isaac, ou Oscar Isaacson, je ne sais plus trop. Et c'est un chef-d'œuvre. Moi, je crois que c'est un chef-d'œuvre. Ce film, il y a un chat qui est juste magnifique.
Ouais, c'est magnifique.
Vous parliez du rap. D'ailleurs, à la fin, il va à un concert de Supreme MT, mais là, peut-être qu'il comprend qu'il n'est plus dans le coup, votre personnage.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ça l'idée du tempo dans le livre. Il va.
Il a double sens, parce que. Pardon, allez-y.
Mais... Non, mais parce qu'il.
Il y a le tempo des morceaux qu'il joue, mais il y a le tempo qui est le rythme de l'instant, du moment.
Ouais,
c'est ce que lui
fait.
Dit un directeur artistique à un moment.
Voilà, ouais, qui est plutôt une référence au timing, au moment de vie. Et en fait, il est paradoxal, ce héros. Il vit un peu dans le passé parce qu'il fait sa musique sans vraiment écouter ce qui intéresse les gens aujourd'hui. C'est ce qu'on lui reproche. Et quand il va dans ce concert à la fin et qu'il découvre le rap, hein, c'est le tout début du rap avec NTM, voilà, ça lui fait un choc et il comprend quelque chose.
Vous aimez quoi au présent dans la musique des années 80 okay.
Alors, moi, c'est plutôt la musique même d'avant, hein, d'années 60, 70. Mais moi, ouais, les groupes, les Rolling Stones, les Who, après le mouvement punk, j'ai beaucoup écouté ça, les Clash, les Sex Pistols et tous ces groupes-là. Et moi, quand j'étais au lycée, c'était le retour du rock, entre guillemets, la grande époque des Libertines, des Strokes. Mais on écoutait beaucoup les groupes des années 70, on va dire, plus que 80.
Alors, j'ai envie de dire que votre roman Tempo, justement, on va le redire, n'est peut-être pas un roman sur la musique qu'un roman sur le temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Je suis complètement d'accord. Parce que c'est quelque chose que j'essaye de faire dans tous mes livres. Enfin, je pense qu'on peut raconter exactement la même histoire que j'ai racontée sans parler de musique. Je pense que c'est effectivement un roman sur le temps, sur les rêves qu'on a et la façon dont on les laisse s'échapper et le bonheur qu'on cherche et qui n'est pas toujours exactement là où on avait pensé. Et ça, je pense que cette histoire, ça pourrait être un gamin qui joue au foot, qui rêve d'être footballeur et qui voilà, qui n'y arrive plus. Je pense qu'on pourrait dire la même chose, en tout cas.
Mais c'est aussi la manière dont lui-même revit a vécu son passé, garde un souvenir de son passé, il le revit.
Ouais,
parce qu'il est complètement... vous disiez qu'il avait une attitude paradoxale. Il l'a au moins à deux niveaux, parce qu'il a aussi cette façon, à la fois il veut tourner la page, il veut être autre chose, quand il est interviewé d'un journaliste et qu'on lui reparle du groupe dont il a fait partie, il est très mécontent, mais en même temps lui-même n'arrive pas tellement à sortir cette période-là.
Non, et puis il la fantasme aussi un petit peu, mais c'est exactement ça, ouais. il se cherche un second souffle, il se cherche un autre, d'autres rêves ou un autre bonheur que celui qu'il avait imaginé quand il avait 20 ans.
C'est ce qu'on fait tous, non ?
C'est ce qu'on fait tous, oui. J'aime bien l'idée que ce soit par les autres qu'on finisse par le trouver.
Il vous écrit à un moment, dans cette histoire, il n'y a rien qui console, rien qui mérite de ressasser le passé. Certains jours, je voudrais même pouvoir tout oublier.
Oui, ça c'est lié à la souffrance qui ressent, à la frustration, quoi. Là, il est dans un moment de désespoir et il s'est dit que peut-être ça aurait été mieux que ça lui arrive pas, mais ce qui est pas vrai in fine, mais c'est une souffrance vis-à-vis de ce qu'il imagine qu'il aurait pu être, voilà, hypothétiquement.
Parce que alors, on va revenir, peut-être on a peut-être été un peu vite, moi j'aime pas trop raconter l'histoire parce que je trouve qu'il faut que le lecteur la découvre, donc c'est plutôt de donner des pistes et puis chacun après peut à partir de l'émission se raconter une histoire et puis aller voir si elle correspond, en tout cas lui donner envie de la lire. Il fait une carrière solo, il essaie de refaire une carrière solo, mais l'impression qu'on a, c'est surtout qu'il aimerait retrouver ses trois amis avec lesquels il avait fondé un groupe d'ailleurs que vous ne nommez jamais.
Non, je ne nomme jamais le groupe, c'est le groupe en tant qu'entité. Et voilà, mais il y a...
C'est la bande d'ados, quoi. Il aimerait toujours être, même sans avoir fait de musique, ce que vous disiez tout à l'heure, moi j'ai jamais fait de musique, enfin si j'ai fait de la musique, mais c'est une autre histoire. On a tous, à un moment de sa vie, envie de retrouver sa bande d'ado parce que c'est un espèce d'âge. Il y a le film de Clapiche qui parle de ça avec Romain Duris, par exemple. Est-ce que c'est pas ça, au fond, qu'il cherche, c'est ce moment d'incandescence, de condensation puissante qu'est l'adolescence?
Ah oui, et puis c'est exactement avec ses amis et les rêves qu'ils avaient ensemble, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il est tout seul à rêver, mais et lui s'en rend assez peu compte. Il a l'impression que ce qu'il poursuit, c'est uniquement le succès musical, mais en fait, c'est plus que ça. C'est plus les rêves qu'il poursuit.
Est-ce qu'on peut faire une carrière solo quand on a été dans un groupe, vous croyez, vous? Si vous avez été dans un groupe?
Je pense qu'on peut, en tout cas.
Il y a quand même. Hein.
Je pense qu'on peut. Alors, il y a des exemples, quand même. Mais alors moi, j'aime bien la musique parce qu'elle est partagée. Donc c'est compliqué. Et c'est ce qu'il y a un petit peu. Il y a une solitude dans son personnage qui n'est pas liée uniquement à pas réussir à percer, qui est liée à être seul.
Alors, c'est un roman sur la musique, mais comme on vient de le dire, c'est aussi un roman sur l'amitié. C'est une des rares fois où je crois que je lis un roman qui parle d'amitié entre un homme hétéro et un homme gay. Est-ce qu'elle est possible, cette amitié? On se demande toujours si l'amitié entre un garçon et une fille est possible. Et en vous lisant, je me suis demandé, finalement, c'est un sujet qui est très très peu, me semble-t-il, abordé dans les romans.
Eh bien, pour être tout à fait franc, ça s'est fait tout seul parce que le personnage n'était
donc,
pas gay.
L'autre était Louis. L'autre s'appelle
Louis. Voilà. Louis, donc l'ami du personnage principal, n'était pas gay dans des premières versions. Et ça s'est fait, alors ça m'arrive assez peu, hein, les personnages ne s'imposent pas à moi, je les travaille, mais là, il y a quelque chose qui s'est imposé et ça s'est fait assez naturellement. Et donc, ça me semblait tout à fait naturel qu'ils soient amis.
Ça vous semblait naturel ou plus intéressant?
C'est une bonne question. Mais ça me semblait naturel, là. Ça me semblait assez naturel. Ça ajoutait... Je voulais pas en faire un sujet hein, du tout de l'homosexualité.
C'est pas le sujet de lui, du tout, pas du tout. Non.
Mais voilà, je me suis dit que j'allais essayer
ça. Peut expliquer
ça,
certains de ses comportements, certaines évolutions de la relation des personnages entre eux. Parce qu'ils vont vivre des choses différentes à un moment.
Une petite distinction qu'il a. Ça s'est fait assez naturellement et leur amitié, elle m'a semblé assez naturelle dans le texte.
Quels sont les auteurs que vous aimez? Je vous ai demandé tout à l'heure, les musiciens, on va tout faire là. Maintenant,
les auteurs que j'aime.
En tout cas, ceux qui parlent par exemple de musique, vous avez lu beaucoup de textes sur la musique par exemple?
Non, j'ai lu assez peu de textes sur la musique. C'est un peu ce qui m'a donné aussi envie d'en faire un. J'avais lu un très bon livre, mais je ne serais pas capable de retrouver l'auteur, qui s'appelle Owen Noonan Marauders. Mais sinon, non, les auteurs qui m'inspirent, alors beaucoup, beaucoup les auteurs américains, Jack London, Hemingway, ou même. Toute cette branche-là, des auteurs-là, c'était vraiment quand j'étais adolescent et quand je suis rentré dans la littérature. Et puis aujourd'hui, je lis beaucoup de français, de contemporains. On parlait de David Lopez, là, dont j'avais adoré le livre.
Fief,
ouais.
Comme on a parlé
avant. Direct, j'aime beaucoup Sors Chalandon, qui est une grosse inspiration pour moi. Ses romans Mon Traître, ou toute cette époque irlandaise, entre guillemets, de Sors Chalandon. Je pense qu'on retrouve un peu dans ma façon d'écrire, je me suis beaucoup inspiré de Sors Chalandon.
Vous avez une écriture très douce. Moi, j'espère que le mot ne vous vexera pas. Mais il y a quelque chose de très doux dans votre écriture. Vous pouvez parler de choses graves, mais jamais vous êtes dans l'emphase. C'est quelque chose qui vous vient... Encore une fois, je rappelle que vous avez fait de la musique. Est-ce qu'on écrit un roman comme on écrit, par exemple, un morceau et vous, dans votre cas, j'imagine ce que vous préférez, c'est les balades? Ou est-ce que je me trompe? Votre livre est un trompe-lecteur?
Non. Alors, je travaille beaucoup de choses, mais pas vraiment le style. J'écris... mes éditeurs n'aiment pas que je dise ça, mais j'écris comme je peux. Et voilà, c'est ce qui me vient. Et j'ai toujours tendance à penser que si on force son style, ça ne marche pas. Mais ce qui est intéressant sur votre question, est-ce qu'on écrit un morceau comme on écrit un roman? Je ne sais pas exactement, ça fait un petit moment que je n'ai pas écrit de morceau. Mais la scène où il écrit un morceau dans le livre, je me suis vraiment inspiré de ce que je ressentais quand j'écrivais un joli chapitre. Quand il y avait quelque chose qui... Quand l'inspiration venait, quoi, quand il y avait quelque chose qui se passait, c'est les mêmes sensations.
Vraiment. Ce moment de j'arrive pas à me retrouver le mot, quand ça condense dans le tube à essai, quoi. Vous savez,
ouais,
quand
exactement. Il y a un moment
ça
de...
marche et d'un seul coup.
Ça marche.
Et on sent que ça marche et on sait que ça marche.
Et on sait que c'est bon. Et c'est vrai, en écrivant aussi, je crois que je sais les chapitres qui sont bien et il y a vraiment un sentiment commun.
à deux reprises, j'ai oublié la première, mais je me souviens de la seconde parce que c'est sur le personnage de Louis. Vous avez dit que c'est arrivé au fur et à mesure, ce n'était pas forcément prévu au départ. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des versions, il y a des éléments importants qui peuvent changer ?
Oui, il y en a. Dans mon cas, en tout cas, c'était vrai à l'époque d'ailleurs de la musique quand je jouais en groupe, mais c'était aussi lié au fait qu'on était plusieurs et que chacun apportait quelque chose qui est difficile d'imaginer quand on est tout seul dans sa chambre. Mais sur le roman aussi, quand même, la première version est assez différente. Il y a une structure, il y a une idée, mais il y a vraiment des choses. Le roman se nourrit du travail qu'on fait au fur et à mesure, et petit à petit.
Mais puisqu'on parle de musique et de roman, il y a au moins une différence, c'est que la musique, on la réinterprète, on la rejoue, même si elle est établie. Là, le roman, il est écrit, vous ne pouvez plus le changer. C'est quelque chose qui vous frustre. Il y a des fois, vous aimeriez les retravailler, vos romans ?
Ah ouais, c'est très très frustrant.
Vous en avez déjà trois, donc vous pourriez en ligne faire des variations, des variantes. C'est des envies que vous pourriez avoir ou pas du tout ? Vous n'avez pas de compte MySpace, mais il y a d'autres choses aujourd'hui.
Non, alors là, je travaille un peu avec des copains sur le lancement pour faire un lancement musical où on va lire des passages du roman en mettant de la musique dessus. Donc ça, c'est des choses qui couplent un peu mes passions, qui m'intéressent. Mais si, ça me frustre. Le roman, c'est quelque chose de... On l'écrit et puis... Quand il sort, généralement, ça fait déjà un moment qu'il est écrit et puis c'est fini, entre guillemets, quoi. Alors que la musique, c'est beaucoup plus dans le partage. Je trouve que c'est... Il n'y a pas d'équivalent à la musique. Il y a le live, le CD.
Alors là, on va écouter quelqu'un qui a fait une carrière dans un groupe et qui maintenant fait une carrière solo.
Quand les jardins seront en fleurs et que les fleurs seront en joie, nous nous en irons de bonheur, là où les saules ne pleurent pas. Nous enivrerons de bonheur la tourterelle triste qui va. Tu avais l'art et la manière de faire oublier le tracas, toute la guerre, tout ce qui dans le dos fait froid. Et la misère n'existait plus, n'existait pas. À quoi bon pleurer les jours qui ne reviennent pas? Le mois de juillet arrive, le mois de juin est là. Les fruits sont aux branches et tes mains sont entre mes doigts. Du rosolan, je fais chanter le vent tout bas. Quand les merles seront moqueurs et que les chiens feront des chats, nous nous en irons de bonheur, là où les saules ne pleurent pas. Nous enivrerons de bonheur la Zénaïde à Macroura. Là-bas l'école est buissonnière, les enfants ne grandissent pas. On chante à tue-tête Prévert, des cancrinis on n'aura pas. Quand les roses seront trémières, quand les fraises seront des bois. À quoi bon pleurer les jours qui ne reviennent pas? Le mois de juillet arrive, le mois de juin est là. Les fruits sont aux branches, ce que ta main est à mes doigts. J'ai mis des pervenches dans un vase mauve lilas.
Voilà, c'était Adrien Gallo, là où les saules ne pleurent pas.
La Relève sur Radio Campus Paris, 93.9 FM et sur le web.
On est toujours avec Martin Dumont qui est l'auteur de Tempo, un troisième roman aux éditions Les Avrils. Et on en a déjà parlé dans votre roman, il y a deux figures essentielles, Louis et Félix, le narrateur, ce sont des copains de lycée, mais ils n'aiment pas, moi j'ai trouvé, il m'a semblé tous les deux, la même chose dans la musique. Louis le premier a l'air plus quelqu'un qui vit l'instant, qui vit l'intensité. Vous écrivez là encore un moment, il disait que c'est, alors il parle de la représentation sur scène, rien ne le rendait plus heureux. Il disait que c'était le but, l'aboutissement de tout notre travail, que sans partage, la musique n'avait aucun sens. Répéter l'ennuyait, il avait beaucoup de mal à rester concentré. Il était chaque fois le premier à éteindre son ampli. Je le forçais souvent à tenir une heure ou deux de plus. Je voulais qu'on progresse, qu'on soit le plus en place possible pour les prochains concerts. Il y a vraiment ces deux manières-là d'appréhender la musique. Dire une un peu besogneuse de travail, de remettre sur le remettre et d'améliorer toujours. Puis d'autres qui aiment le moment, se lâcher. Et peu importe si c'est pas parfait, ce qui compte, c'est ce qu'on vit à ce moment-là.
Ouais, exactement. Pas que dans la musique, hein, je pense un peu dans la vie. Mais là, c'était vraiment ça. Là, c'est assez autobiographique dans le sens où dans mon groupe, ça fonctionnait un peu comme ça.
Alors vous étiez lequel?
Alors moi, j'étais le besogneux.
Vous êtes plutôt Félix.
Ouais,
parce que je pense que pour écrire un roman, c'est ce qu'il faut.
Tout à fait, ouais. Et j'avais ce mon meilleur ami qui chantait aussi et qui jouait de la guitare et qui avait une sorte de détachement et qui était plus dans l'instant, dans la folie. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas meilleur que lui hein, sur scène. C'était une vraie bête de scène mais à côté de ça c'était quelqu'un de bordélique et je me suis toujours dit qu'il fallait les deux quoi, c'était l'alchimie, enfin on était quatre hein, qu'il fallait les quatre pour faire le groupe. On retrouve un peu ça dans les Libertines, je sais pas si c'est vrai, mais l'image de Pete Doherty, Destroy et de Karl Barat un peu plus carré qui tient le groupe, je trouve ça dans la mythologie rock ça marche bien ce duo.
Il y a vraiment une difficulté à vivre dans un groupe, moi j'ai jamais fait un groupe avec des copains à l'adolescence, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est vraiment compliqué, j'ai envie de dire. Dans votre livre, on ne le ressent pas, ça. Il n'y a pas du tout toute cette mythologie du groupe où les gens s'engueulent.
Bon, parce que je pense qu'au stade copain, au stade adolescent, non, il y a surtout du plaisir. Je pense que les problèmes, ils viennent avec les problèmes d'ego, avec ce qui peut se passer ensuite. Mais là, il faut atteindre un certain degré de notoriété. Donc non, on était vraiment comme une bande de copains, quoi. On s'engueulait souvent, mais non, c'était essentiellement du plaisir.
Et du plaisir à jouer ensemble, à être ensemble, ou juste le plaisir de se retrouver
Les deux. On cumule un peu les deux. Moi, j'ai souvent joué avec des gens, mais alors toujours avec des amis. J'ai jamais eu de groupe où on se trouve par annonce. Ça passait quand même par l'amitié, par quelque chose avant de jouer ensemble, quoi. Se connaître, ça aidait énormément.
Vous avez travaillé pour d'autres ?
Dans quel sens ?
Dans la musique, vous avez travaillé pour d'autres musiciens, vous avez écrit des textes, vous n'avez jamais fait ça ?
Non, j'ai jamais fait. Non, j'ai uniquement travaillé entre guillemets pour moi.
Là, dans le livre, il y a une scène qui est assez géniale. C'est ce moment où, comme ça décolle pas, son impresario, ça c'est encore avant, on disait ça, son agent lui trouve un travail où il doit aller faire les voix sur un chanteur très connu. En gros, on lui demande de soutenir la voix du chanteur qui est très connu. Mais on ne saura jamais que c'est lui, quoi.
Ouais, exactement.
Ça, c'est terrible pour l'ego, j'imagine.
C'est ça, mais en fait, ça pose un peu la question de qu'est-ce que c'est vivre de la musique ou vivre de son art, quoi. Je ne sais plus, on m'avait dit un jour pour un Mick Jagger, combien il y en a qui n'y arrivent pas. Et il y a un petit peu de ça. Moi, quand j'étais plus jeune et que je voulais vraiment percer dans la musique, je m'étais dit, tant pis, je serai ingénieur du son si je n'y arrive pas. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, enfin, est-ce que j'ai vraiment envie que ma vie ce soit de sonoriser des gars sur scène dont mon rêve c'était d'être à leur place? Et je me suis dit, non, surtout pas, il faut fuir, il faut aller faire autre chose. Donc là, il y a un peu ça, il y a un peu ce réaliser de. C'est bien beau de dire qu'on vit de la musique, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, quoi.
Ouais, à la fin du livre, il y a un QR code, hein, on peut aller lire plus d'informations sur le livre, plus de tempo. Il y a une interview de vous, une courte interview où vous expliquez qu'aussi ce livre pour vous, c'est un petit peu, de ce que j'ai compris en tout cas, pas une critique, mais en tout cas une mise à distance du discours sur si on veut, on peut. Quoi. Quand on veut, on peut. Il n'y a que le travail, et avec le travail, on y arrive toujours.
Oui, complètement.
Ça vous énerve ?
Oui, je ne supporte pas ces slogans Nike, là, ou Adidas, je ne sais plus.
Just do it.
Et je pense que, là, ça doit être mon côté jeune papa qui parle, mais c'est vraiment le pire truc qu'on puisse inculquer au môme. Pas que je pense qu'il ne fallait pas se battre ou faire des efforts, etc. Mais cette idée selon laquelle on peut tout faire, je pense que c'est faux. Je pense que ça crée beaucoup de frustration. Et là encore, je parlais des gamins dans les centres de formation de foot. Je pense que on pourrait expliquer aussi que le bonheur, il n'est pas uniquement dans la réalisation d'un rêve d'enfant, mais dans tout ce qu'il y a à côté, les rencontres et voilà.
Vous êtes très sage, hein. Je trouve. Il y a une sagesse qui s'exprime dans ce roman.
Ouais, c'est parce que maintenant j'ai 35 ans. Hein. 20 ans, j'étais persuadé qu'il fallait just do it. Hein, donc,
Oh, mais en même temps, vous êtes ingénieur. Donc, ouais. Vous avez quand même poursuivi des études, contrairement là où ils arrêtent parce que
leur groupe marche bien. Ben, nous, ça, c'est... Ouais, voilà, nous, on a été sauvés, entre guillemets, parce que la question ne s'est jamais véritablement posée.
Si elle s'était posée, vous auriez tout abandonné ?
En tout cas, on se posait la même question avant même qu'elle se pose, et on était convaincus qu'on aurait, on aurait essayé la musique un peu plus loin. Ouais.
Est-ce que ça manque le contact direct avec le public ? Parce que c'est quand même ça qu'on cherche quand on est... Je me souviens toujours de cette phrase du chanteur des Doors qui disait « Les gens croient que pour être connu, il faut avoir quelque chose en plus. » Il disait « Au contraire, il faut manquer de quelque chose. »
Je pense que c'est vrai. Pour écrire des livres, ça doit être vrai aussi, ouais.
Ça manque. Avec le public, ça doit être une adrénaline extraordinaire.
Ouais, ça manque. Et puis en plus, quand on a joué en groupe, quand on aime ça, la musique, elle a un peu de sens que quand on la partage, quoi. Moi, je joue tout seul de la guitare dans mon salon. Je m'imagine en train de faire le morceau devant des gens. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi-même. Pas que je ne jouerais pas si on me disait que je ne ferais plus jamais de concert, mais il manque quelque chose, je trouve.
Ouais, donc vous aimiez ça.
J'aimais ça, ouais. Et puis j'adore aller voir des concerts aussi. Ouais, je trouve que la musique a ça que... Quand on écrit un livre, il part et on peut se dire qu'il va être lu, on sera
pas
là. On rencontre
les lecteurs, quand même, voilà. Parfois. Et maintenant, il y a des tournées, c'est presque...
Ouais, c'est vrai. Mais on n'est pas dans l'instant, quoi. On est dans la réflexion et l'analyse de... J'ai jamais été là quand quelqu'un lit et découvre mon livre.
Je serais... Vous n'êtes pas encore arrivé dans le métro
De croiser quelqu'un qui lisait mon livre, non.
Ça peut arriver, hein.
Ça peut arriver.
Vous avez connu les deux mondes, le monde de la musique est beaucoup plus dur que celui du livre, non? Parce que les enjeux financiers sont beaucoup plus forts.
Ouais, je trouve que le milieu du livre est difficile aussi, mais...
Il faut moins d'argent pour produire un livre que pour produire un disque, quand même.
Ouais, sans doute, mais aujourd'hui, il y a ce truc un peu magique, hein, quand même, de pouvoir... On fait une chanson dans sa chambre, on la balance sur Internet, et j'allais dire si on a de la chance, mais non, si on est vraiment brillant, il n'y a pas de raison pour qu'à un moment, elle ne soit pas écoutée. Enfin, donc, il y a des trucs qui sortent. Ça, je trouve ça assez beau. Dans le livre, sans éditeur, ça me semble compliqué d'arriver à proposer son texte.
Il y a des plateformes pour ça.
Mais un petit peu, ça se développe un peu.
Mais qu'est-ce qui fait qu'un... Parce que c'est quand même un peu la question qu'il y a au fond de votre livre. Qu'est-ce qui fait qu'un chanteur va plus marcher qu'un autre? C'est lui, c'est son charisme, c'est son accord avec le tempo, pour reprendre le titre du livre. C'est qu'il soit en cohérence avec l'époque. C'est pas forcément celui qui chante le mieux qui vend le plus.
Non. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, ouais. Alors, indéniablement, il y a quand même une part de
talent,
de talent, voilà, de travail, etc. Et après, effectivement, il y a eu être en adéquation avec l'époque, avec ce qu'attend le public. Je pense qu'il y a une part de chance qui est quand même considérable, être au bon moment, au bon endroit.
Il y a le charisme, quand même.
Ah oui.
Ça,
voilà.
C'est pas le talent, ça, c'est encore autre chose.
Ouais. Mais disons qu'il y a ce qui...
C'est ce qui est peut-être le plus injuste, parce que ça, on l'a pas.
Ouais. Il y a un tas de petites choses. Hein. Qu'est-ce qui explique le succès de l'un par rapport à l'autre? Ce qui est sûr, c'est que je pense que parfois, hein, ça se joue à pas grand-chose. Donc, je comprends qu'il y ait des frustrations et des carrières qui ne se fassent pas et qui passent à pas grand-chose. Mais...
Vous disiez tout à l'heure que vous l'aviez fait volontairement. Là, vous reparliez qu'aujourd'hui, quelqu'un peut balancer une chanson sur Internet. Évidemment, je ne suis pas magicien, donc je ne peux rien pour vous. Mais ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous enviez cette possibilité-là. C'est quelque chose que vous auriez aimé pouvoir vendre. Faire diffuser votre musique plus directement sans tous ces intermédiaires?
Ouais, alors on le faisait un tout petit peu, c'était le début, mais c'était pas dans les mêmes proportions. Ouais, j'aime bien l'idée, ouais. Même si ça va avec plein de questions compliquées sur comment sont rémunérés les artistes et ce genre de choses. Mais j'aime bien l'idée, ouais. Il y a une certaine magie en tout cas.
On ne peut pas finir cette émission sans dire un mot d'un personnage que j'aime beaucoup, il s'appelle Hervé. C'est un peu le double inversé du diable dans la légende de Robert Johnson que vous racontez. On ne va pas trop en dire, mais c'est une sorte d'ange gardien. Est-ce que peut-être que vous pouvez raconter la légende de Robert Johnson? Moi, je ne la connaissais pas, j'ai découvert dans votre livre.
Oui, tout à fait. Alors, Robert Johnson, c'est un bluesman, un des plus grands bluesman des années 30, vraiment à l'origine du mouvement blues aux États-Unis. Et la légende qu'il a entretenue, c'est que étant un guitariste et chanteur moyen, un peu chambré par ses pairs, il serait parti la nuit seul s'asseoir à la croisée de deux routes, la crossroad en anglais. Et à minuit, il aurait rencontré le diable qui lui aurait proposé, en échange de son âme, de lui donner un talent divin. Et donc Robert Johnson aurait vendu son âme au diable et serait devenu la légende qu'il est devenu.
Et c'est un motif qui revient à plusieurs reprises dans le livre. Ouais. Et Hervé est un peu le contre-exemple de ça, peut-être pour le personnage.
Ouais, tout à fait, ouais.
Il lui donne peut-être pas le talent absolu, mais il lui donne bien d'autres choses.
Il lui donne d'autres clés, ouais. D'autres clés de vie.
Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un film que vous aimez, que moi j'adore, qui s'appelle Inside Llewyn Davis. J'arriverai jamais à le dire. Inside Llewyn Davis. On va juste écouter un petit extrait pour se quitter. Merci d'être passé par le studio. Martin Dumont, je rappelle le titre de votre livre, Tempo, et c'est paru aux Avril. Assurée par Pablo. Vous pourrez retrouver bientôt cette émission sur le site de Radio Campus Paris et réécouter toutes les précédentes de la saison. Le programme musical de Radio Campus, c'est maintenant jusqu'à 19h, où vous retrouverez la matinale de Radio Campus Paris. Nous, on se retrouve dans 15 jours, ce sera le 22 janvier, si tout va bien. Bonne soirée.
Paris.